Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui vous emmène sur les traces d'Ella Maillard vers les oasis interdites. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Rappelez-vous, hier on s'est arrêté au milieu d'un chapitre et donc on en était au moment où nos deux protagonistes étaient sur le chemin pour Yarkand. Un cavalier armé qui nous sert d'escorte veut nous forcer à le suivre chez le maire. Et nous parvenons à nous débarrasser de lui en lui faisant croire que nous ne pouvons faire de visite avant d'avoir mis des habits propres. À vrai dire, nous ne voulons pas être traités en suspect. C'est ainsi que, sans tarder, nous franchissons la muraille d'enceinte crénelée de Yarkand et, par des rues tortueuses, entre les murs élevés, nous atteignons la maison de l'Aksakal. C'est une maison repliée sur elle-même, calme, fraîche, avec une cuvette sur une table dans un cabinet de toilette. J'aimerais pouvoir reprendre des forces à Yarkand pendant 2 ou 3 jours, avec la chaleur qui nous a empêchés de nous nourrir, avec les eaux magnésiennes qui nous convenaient mal, sans oublier le sommeil grignoté par les parasites. Je suis à bout de mes réserves et peu disposée à visiter la ville et les missionnaires suédois à toute vitesse. Et je ne cache pas à Peter ce que je pense de cette manière de voyager, où l'on va de l'avant sans avoir jamais le temps de faire la connaissance de rien. Mais Peter veut arriver le plus vite possible. L'Aksakal est un grand homme sérieux au visage intelligent, d'origine tibétaine, en ayant été à Lhasa. Le gouvernement des Indes l'a décoré pour avoir sauvé la vie aux Européens de Yarkand au cours des dernières guerres civiles, c'est-à-dire aux missionnaires que nous ne verrons pas parce qu'ils passent l'été dans les montagnes. À la mode des Indes, il m'appelle Mim Sahib. Il nous présente un robuste turki à barbe blonde dont le chronomètre West Hand Watch porte une inscription dans laquelle Orel Stein exprime sa reconnaissance envers Moussa Hanoun, son interprète, non pas en anglais malheureusement pour nous, mais en turki chinois persan. Chez l'Aksakal, grâce à un coup d'œil indiscret dans le courrier en route pour Koh Tan, nous apprenons que l'Angleterre est en deuil de Lawrence of Arabia et dans le Times, je trouve aussi que Mademoiselle Asia porte des robes de l'an 20 dans La Prisonnière. Dans mon carnet de notes, cette information est suivie de 3 points d'exclamation dont je suis d'habitude fort chiche. Mais aujourd'hui, un an plus tard, je ne sais plus bien ce qui les motivait. Au cours des visites officielles faites le lendemain, je vois plusieurs fois au mur la photo du général Sheng, gouverneur de la province. La langue russe nous est utile lors d'interviews où nous apprenons que Ma Junyin veut la paix car il sait qu'il ne peut pas combattre tout seul. Ma aura soi-disant admis qu'il y a autant de Dungan contre lui que pour lui et à Moscou, il serait en train de conclure un accord avec Urumqi. Mais à Yarkand, la gouvernementale, comme à Keria la rebelle, le maire, un charmant vieux chinois de Yunnan, n'obtient ni le passeport qu'il demande, ni la permission de quitter le Xinjiang. Qu'ils sont donc nombreux les pays où l'on n'est pas libre. Dans le terrain vague qui s'étend entre la ville turque et la ville chinoise, où des maisons en ruine évoquent la dernière guerre, un compteur public gesticule au milieu d'un cercle attentif. Dans les rues, les soldats d'apparence moins robuste que les Dungan portent un uniforme gris, tandis que la milice se distingue par ses vêtements d'un jaune bouton d'or. Il y a foule, c'est jour de bazar, et nous achetons en souvenir de Yarkand 2 paires de bottes souples et quelques calottes bordées que nous enlevons au piquet dressé à la devanture des échoppes. Le lendemain matin, pour la première fois au cours de notre voyage, nous sommes photographiés dans la cour de l'Aksakal au moment de notre départ pour Kashgar. C'est le frêle colonel Liu qui opère, armé d'un appareil allemand qu'il a acheté au consul soviétique de Kashgar. La dernière fois que nous avons posé devant l'appareil, c'était à Pékin, sur le quai de la gare. Ces signes d'influence européenne qui réapparaissent témoignent davantage de notre avance à travers l'Asie que ne le fait l'énoncé des kilomètres parcourus. Chapitre 12. En Kashgari. Quelques heures après être partis, comme nous faisions halte dans un village pour boire du thé, nous nous trouvons assis à côté d'un Turki aux yeux bleus, et Peter découvre par hasard qu'il sait le russe. Nous discutons aussitôt de la chose publique. Notre voisin, originaire du Fergana, est un cynique commerçant qui se dit assez malin pour faire des affaires sous n'importe quel régime. Il ne s'encombre pas d'opinions politiques et ses remarques me paraissent objectives. Les indigènes n'ont pas la vie facile. Un nouvel impôt vient d'être instauré et s'ajoute à ceux qui existent déjà. Il correspond au dixième de la récolte de chacun et sera destiné à créer des écoles modernes dans tout le pays. Quant aux mœurs religieuses, il paraît qu'on n'apprend plus guère le Coran. L'influence des mullahs diminue de jour en jour, au point que pour se marier, il suffit de se faire inscrire dans un registre en compagnie de 4 témoins, comme cela se passe au Turkestan russe. Mais d'influents musulmans protestent, paraît-il, contre ces innovations. Notre Turquie nous invite chez lui à 2 pas de là. Pour nous présenter sa femme âgée de 18 ans. Voyant mon étonnement, car il doit avoir plus de 50 ans, il m'explique que sa vraie femme et ses enfants habitent Kashgar. Mais ayant dû venir travailler 2 mois ici, il s'était empressé de suivre la coutume du pays selon laquelle l'homme loin de chez lui se remarie afin d'avoir un intérieur. Lorsqu'il repart, sa femme, qu'on pourrait appeler une mariée provisoire, retourne dans sa famille. D'ailleurs, ajoute-t-il, pourquoi hésiter, une femme comme celle-ci ne vaut pas plus de 100 piauds, soit un demi-sac de farine environ. Comme j'essaie de comprendre la valeur que cela représenterait chez nous, il me parle en sar, l'équivalent du vieux taël chinois. 52 livres de farine qu'on payait un sar il y a 2 ans valent 160 sars aujourd'hui. À cause de cette inflation, les paysans gardent leur farine. Il n'y en a plus au marché et les riches convertissent leur argent en laine qu'ils envoient aux Indes où ils ont des comptes en banque. D'ailleurs, la prudence conseille de cacher ces richesses. 5 hommes parmi les propriétaires aisés de Kashgar viennent de disparaître attaqués en voyage, soi-disant par des bandits Kirzig. Et les autorités qui accusent ces riches d'avoir été des ennemis de l'État se sont emparées de leurs propriétés. Il est vrai qu'il y a dans la montagne une brigade de Russes venus de l'Ouest et qu'on traite d'indisciplinés Kirzig. Mais ils semblent obéir à des ordres précis. Ils ont un chant à eux dans lequel ils se nomment des Tedanji, ceux de la 4e. L'homme que nous avions en face de nous et qui en savait plus que nous ne pourrions jamais apprendre par nous-mêmes, pensait-il que l'influence soviétique était bonne pour le pays ? Il faut reconnaître que le Xinjiang est un pays moyenâgeux dont les habitants sont des sauvages. Il emploie le mot « diki ». Et tout ce qu'on fait pour les aider est bon, dit-il. Si grâce à l'influence soviétique, on recrute 50 ou 100 écoliers pour leur faire un stage à Tashkent, c'est bien. Mais quand on le fait en dépit de l'opposition de certains parents, c'est mal. Que diantre, ceux qui croient encore au Coran, qu'on les laisse agir en conséquence. Les Russes, poursuit-il, sont surtout actifs dans le nord de la province, à Urumqi, où il y a une école militaire soviétique. Et là, un système de police oblige chacun à faire attention à ce qu'il dit, même chez soi. C'est au point que les Russes blancs, qui tenaient à leurs idées, ont dû tous quitter la province. Ici, il n'y a pas encore de vrais Russes, ajoute-t-il, mais seulement des conseillers sartes, qui doublent chaque maire de village. Encore une révolte. Nous avions dépassé Dipotaï le second jour jusqu'à Kizil et la chaleur avait été torride. Pendant tout notre voyage, je n'avais connu le nez de Peter que brûlé par les coups de soleil et lorsque je pense à mon compagnon, je le vois allongé sur un coude, il se fatiguait vite de la position à la turque, tâtant d'un ongle impatient la peau racornie de son nez. Pour que mon visage ne subisse pas le même sort, je portais une visière en mica, la même depuis des mois. C'était, avec mon couteau, l'une de mes plus chères possessions. Cassée en 3 endroits, je lui avais prolongé la vie pendant des semaines à l'aide de sparadrap. Mais la matière adhésive de ce dernier, fondue par la chaleur, avait fini par la rendre inutilisable. Le lendemain, Niaz nous annonçait 11 potaillis jusqu'à Yangtze Hisar, et c'est ce jour-là que je vis pour la première fois les très hautes montagnes neigeuses qui contrebutent les Pamirs. Elles étincelaient comme une soie rare vers le sud, et je n'en détachais mes yeux que lorsque le voile de poussière qui règne d'habitude au Xinjiang les fit disparaître une fois de plus. Et comme Otsedam, je languissais de m'élever vers les sommets. Désireux d'arriver à l'étape avant la chaleur de la fin de l'après-midi, nous faisons trotter nos montures. Leurs deux propriétaires barbus nous suivent au pas, tout en chantant d'une façon délicieuse. Ces hommes endurants sont si débordants de gaieté que cette chevauchée me laisse un souvenir parfait. Soudain, alors que nous croyons approcher d'un moulin, dont nous entendons le renflement, débouchent deux mastodontes qui terrifient mon cheval, deux camions transportant des soldats. Quelle surprise! Il y a donc des autos ici? Depuis Lancho, nous avions eu quelques raisons de croire que l'Asie centrale ne leur convenait guère. Arrivés chez l'Aksakal de Yangtze Hisar, nous apprenons qu'un indigène, sachant le russe Kakashgar, les soldats s'étaient révoltés contre le général Liu Pin, qui avait mis le feu à son yamen parce qu'il n'avait pas touché leur solde depuis plusieurs mois, et que 50 d'entre eux s'étaient enfuis dans les montagnes avec armes et munitions. Nous avions vu ceux qui les poursuivaient. Qu'il est donc difficile de gouverner, me disais-je. On taxe lourdement le peuple et on le mécontente afin de payer la troupe qui soutient la dictature comme à Khotan. Ou bien on cherche à se concilier les contribuables en ne les imposant pas trop, mais alors l'argent manque et les soldats non payés se soulèvent, laissant la ville à la merci de montagnards comme à Kashgar. Qu'est-ce qui vaut le mieux ? Mais Peter n'est pas intéressé par ma question. Il est en train de considérer un tout autre problème. En Angleterre, qui donc aurait gain de cause dans un procès où un homme, soudain anobli sous le nom de Lord Bonior, attaquait le poète qui publie une tragédie où le héros porte justement le nom jusqu'alors inutilisé de Bonior, nom dont dépend l'équilibre de ses vers. Après que Peter s'est baigné en public dans un des bassins profonds et verdâtres qui servent de réservoir dans chaque oasis, nous passons une heure sur un tapis à l'ombre d'un verger, mangeant des figues et des laits caillés, tandis qu'un orchestre à cordes répète des airs indigènes dans une galerie au-dessus de nous. Il ne me restait plus qu'à enfiler un kalat pour me croire le personnage central d'une miniature persane. Catastrophe. Un mois après avoir quitté Tchertchen, le 22 juillet, nous sommes à 2 jours de Kashgar où nous envoyons un messager pour annoncer notre arrivée. Au bord de la route, les feuilles blanches et vertes des petits peupliers frémissent sur le fond bleu du ciel. J'avance à l'amble, heureuse. Plus loin, à l'ombre près d'un canal qui viennent de traverser, nous rattrapons nos ânes partis avant nous. Ils sont arrêtés, ce qui n'éveille pas d'abord notre suspicion. Puis nous quittons la grande route pour suivre un raccourci dans de vastes pâturages irrigués où le bétail repu nous regarde passer. Mon cheval suit de près le soldat monté qui nous escorte. En traversant une rivière, le cheval de l'homme trébuche, se rattrape et sort de l'eau. Avant que j'aie le temps de comprendre ce qui m'arrive, ma bête s'embourbe et terrifiée se couche sur le flanc. Dans l'eau, à mi-corps, je la tire de là avec l'aide de Niaz, tout en jurant contre notre mauvais guide, l'invectivant en russe, faute de savoir assez de Turquie. Carnet de notes, passeport, films, les cas sont ruisselants ainsi que mon gros sac de couchage. Peter rappelle le soldat pour qu'il me prête sa selle. Croyant que mon cheval était en danger, cet idiot appelait des bergers au secours, tout en s'esquivant. À Yapchen, où nous arrivons ce soir-là, il n'y a pas de farine au marché et nous ne parvenons pas à en acheter qu'en nous adressant au Sianye, le maire. Pendant notre souper, un Turquie aux traits nets, habitué à commander, ce qui étonne chez un indigène, demande sèchement à voir nos papiers. Il sait le russe, vient d'Andijan et nous apprend que nous ne trouverons pas d'âne ici. Mais ce n'est pas à cause de lui que je me souviendrai longtemps de Yapchen. La nuit se passe bien pour peu qu'on ne craigne pas de se voir transformé en terrain de saut par de charmants petits crapauds. Mais le lendemain, le 23 juillet, jour mémorable de notre arrivée à Kashgar, lorsque Peter ouvre sa valise pour en sortir son rasoir, il découvre qu'elle est pleine d'eau. Et ce n'est pas tout. La cantine qui lui faisait pendant a également séjourné dans l'eau quand un bourricot faillit se noyer dans le canal où nous l'avions dépassé la veille. L'ânier, terrifié, n'avait rien osé dire. Peter, impatient, est obligé de retarder notre départ. Pour éviter des dégâts graves, il faut procéder à un séchage partiel. La mallette de pharmacie est transformée en papier éponge à l'intérieur duquel se dissolvent pilules, cachets et coton hydrophile. Mais le plus grand malheur, c'est de découvrir que quelques films de Peter, déjà exposés, suintent et sont probablement perdus. Nos seuls objets de luxe, et que nous avons failli devoir abandonner à Turuksai lorsque notre caravane fondait comme beurre au soleil, nos machines à écrire sont enrobées dans une couche de limon et ne fonctionnent plus. Une heure durant, j'étanche l'humidité et j'asperge mon Erika d'huile de fusil jusqu'à ce que ses articulations reprennent vie. Parmi les effets de Peter qui s'égouttent sur une corde, pend lamentablement un complet en lainage d'été, tout panaché par le voisinage humide d'un foulard vert, souvenir de Koh Tan. Depuis des mois, chaque fois que Peter plongeait dans sa valise, j'y voyais la belle étoffe et les plis impeccables du pantalon. J'avais déjà prévu qu'avec ma petite jupe plissée, roulée en boule dans un sac depuis le départ, je ne pourrais guère passer que pour la cuisinière de Peter, lorsque, si élégant, il m'emmènerait dans la haute société de Kashgar. Certes, il était vexant que ses vêtements fussent ruinés sur la grande route, bien loin des pistes périlleuses, et après avoir traversé toute la Tartarie. Mais étais-je aussi triste que j'aurais dû l'être ? De nouveaux bourricots étaient introuvables à Yapchen. Nous obligeons l'ânier fautif à continuer avec nous en ne le payant pas. Et ce pauvre garçon, incapable de payer ce qu'il doit pour la nuit, laissera son poignard aux mains de l'aubergiste en gage de sa dette. Nous roulons carrosse. Cette fois, Niaz restera en arrière pour surveiller les ânes et nous partons au trot pour couvrir les 11 derniers potaïs qui nous séparent des hachis, comme les Chinois appellent Kashgar. Au milieu de la verdure, voici bientôt les fortifications de la nouvelle ville, où notre homme, escorte, nous quitte pour rejoindre son cantonnement. Les murs portent les traces de nombreuses balles essuyées lors de récentes guerres civiles. Il y a 10 kilomètres encore jusqu'à la vieille ville, cette ville qui hanta nos rêves si longtemps. Et sur la route fréquentée, nous trottons tout seuls et fiers comme de grands enfants sans gardien. Au bord de la route, une Victoria attend. Comme par magie, nous y trouvons installés tandis qu'un cavalier vêtu de rouge mène au galop nos chevaux par la bride. Nous sommes emportés dans l'ombre fraîche des grands arbres. Quelques poteaux télégraphiques, vestiges d'une ligne détruite, se succèdent au bord de la route et j'ai l'impression d'avancer à une vitesse folle. Quel sentiment de supériorité nous habite lorsqu'on est seul à rouler sur une route. Une joie unique est en moi. Quoiqu'il me semble toujours naturel d'être là, où je me trouve, je sais que cette arrivée à Kashgar, évoquée tant de fois, nous avait semblé chimérique à Pékin. La chance aidant, nous avons réussi. Et la réussite de cette traversée restera sans rival dans mon expérience. En effet, l'Asie est unique, et pour moi qui aime surtout les vieux pays primitifs, il n'y a pas de continent qui soit comparable. Le bonheur, le voilà, cette ivresse de créer un instant d'équilibre entre un passé qui nous satisfait et un avenir immédiat, riche de promesses. Il y a un accueil que je prévois, incomparable dans une maison amie. Un mois de grandes vacances passées dans l'Himalaya. Et pas encore de soucis. Un fou rire de gamine s'empare de moi, tandis que je bourre les côtes de Peter de coups de coude, incapable d'exprimer autrement la joie qui bouillonne en moi. Au pied des murs imposants de la vieille ville où se tassent de petits jardins maraîchers, voici venir à notre rencontre un beau cavalier coiffé d'un casque colonial et vêtu de tussors. Il se présente à nous et nous souhaite la bienvenue. C'est Arthur Barlow, le vice-consul. À sa suite, nous arrivons devant l'emblème qui porte Dieu et mon droit, au-dessus de la porte du consulat général de Grande-Bretagne. Là, à côté des lauriers roses, des montagnards himalayens du Hunza montent la garde. Des insignes, têtes de bouquetins en argent, ornent leurs bonnets de laine blanche. Le jardin déborde de fleurs, des canetons jouent sur une pelouse anglaise. Voici une longue maison à galerie, des meubles polis dans la fraîcheur du hall, des fauteuils couverts de crétonne à fleurs, des livres, des journaux partout, un homme jeune encore qui est le médecin anglais du consulat, puis une vieille dame frêle qui émerge d'un col de dentelle. Puis vous présentez Miss Hengval de la maison suédoise. Enfin, sur la table sont entassés des sandwichs, des scones chauds et ramollis par du beurre fondant. Et me voici obligée d'équilibrer gauchement une tasse de thé sur une soucoupe glissante, disant avec mon sourire le plus mondain, « De ce que je vous prie, oui, oui, je vous remercie, nous avons fait un excellent voyage. » Chapitre 13. La ville de nos rêves. Joie d'une maison. Avant d'avoir séjourné à Kashgar, je n'avais jamais joui avec autant d'intensité des plaisirs nombreux qu'une maison peut contenir. Il y avait le sommeil sans bataille contre les puces, l'eau chaude qui montait jusqu'au cou dans la baignoire, le choc des bouteilles sur le plateau quand on avait répondu « yes » à la question « have a drink ?» Mais au début, pour les bêtes quasi sauvages que nous étions devenues, les joies de la table primaient tout. Jamais je ne pouvais me rassasier de légumes ou de salades dont j'avais été privée depuis 5 mois. Et dans mon souvenir, je vois encore l'éclat des cristaux et de l'argenterie sur l'acajou de la table fleurie, spectacle aimable qui me distrayait de la fatigue éprouvée à être assise sur une chaise. Puis il y avait le luxe du café noir qui parfumait la somnolence inhérente à un bon repas. Mais surtout, j'appréciais les tartines du matin, dont je faisais disparaître le pain sous le beurre et le miel. Vers la fin de l'après-midi, lorsqu'on voulait bouger un peu, on pouvait jouer au tennis. Mais ni mon compagnon ni moi ne savions jouer. Tout au contraire, dans les parties de squash qu'il disputait contre Barlow, Peter était rapide comme l'éclair et je m'étonnais de voir combien sa raideur apparente cachait de souplesse. À côté de nous, une dizaine de Hunza, scouts de la garde du consulat, s'amusaient comme des enfants au volley-ball. C'est avec ces grands hommes robustes, moustachus et noirs comme des Siciliens que 2 fois par semaine nous jouions au football. Le terrain était au pied des fortifications, à côté de la route où les caravanes de laine à destination de la Russie avançaient avec lenteur. Craignant les bousculades, je m'étais réfugiée à l'aile droite. Mais à vrai dire, chacun jouait avec finesse, sous les ordres de Barlow, aussi bien les montagnards du Hunza que quelques commis indiens qui venaient de quitter leur comptoir à la ville. Lorsqu'un but avait été marqué, tout le monde hurlait « Shabash !» et le fait que je courais de mon mieux ne devait guère dissiper la dernière rumeur du bazar selon laquelle un russe blanc déguisé en femme venait d'arriver à Kashgar accompagné d'un anglais. Le soir, on bavardait et fait rare depuis notre départ dans une langue familière à tous les interlocuteurs. Ou bien on paraissait avec l'un des nombreux livres de la bibliothèque sur les genoux. Par hasard, un jour, je lus avec fierté dans le Times, pour une fois que ce n'était pas Peter seulement qui découvrait des nouvelles de ses amis dans un vénérable journal, que ma camarade genevoise Loulou Boulaz avait réussi ma première sensationnelle en gravissant la face nord des Grandes Jorasses. La plupart du temps, j'étais la proie des engourdissements chroniques au travers duquel me parvenaient quelques manifestations extérieures. L'Angleterre s'était émue de l'absence prolongée de Peter, et par son secrétaire d'État, elle avait prié Kashgar de faire des recherches. C'est pourquoi notre arrivée n'avait été une surprise pour personne, à Shinnybag, comme on appelle le consulat anglais. Dans la réponse rassurante que Mr. Barlow rédigeait, Il ajoutait un mot pour « mon ministre à Londres », auquel je regrettais alors de n'avoir jamais rendu visite. En Europe, on semblait s'agiter au sujet des prétentions italiennes en Abyssinie. Mais tout cela était bien lointain, et j'écoutais avec davantage d'intérêt les plans que le consulat de Kashgar faisait avec sa légation de Pékin pour envoyer une délégation à Urumqi, projet fort difficile à réaliser. On me racontait aussi l'histoire de Miss Angval, dont nous avions fait la connaissance à notre arrivée à Kashgar. Elle habitait le Xinjiang depuis 30 ans et lors de la dernière guerre civile, seule à Kucha, où elle vivait depuis 13 ans, les guerriers pillards avaient toujours respecté ses biens. Mais un jour, qu'un officier s'emparait de son cheval, elle l'avait giflé de si magistrale façon qu'il était reparti tout éberlué. Et lorsque les Dungans voulaient lui payer ses médicaments avec leurs billets dépréciés, elle refusait. Leur montrant ses murs tapissés de journaux, elle disait « Merci, j'ai déjà du papier, et mieux illustré que le vôtre. Je veux de l'argent capable d'acheter du pain. » Miss Engvall désirait rentrer en Suède pour y finir ses jours. Comme son cœur affaibli n'aurait pas supporté l'altitude de l'Himalaya, elle avait depuis longtemps demandé à Urumqi un visa pour la nouvelle route de Tashkent, où le col n'a que 4120 mètres. Enfin, le jour de notre départ, elle venait d'obtenir cette permission. Mais son étrange destinée ne lui permet pas de revoir sa patrie. J'appris bien plus tard qu'elle n'avait pas pu supporter le voyage et qu'elle était morte dans le train avant d'atteindre Moscou. On n'aura pas le temps de lire la suite de ce chapitre. Alors, on peut dire que c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. J'espère que vous allez bien. Il reste très peu de pages, mais ça va être quand même super parce que une fois qu'on aura fini ça, en plus de vous parler des Ouïghours, eh ben, je vais enregistrer cet après-midi même en fait, une petite émission avec un ami Della Maillard qu'il a bien connu à la fin de sa vie et qui a aussi géré ses archives photographiques. Donc on parlera deux fois Della Maillard et pas en lisant ses livres mais par des gens qui la connaissaient, en tout cas par quelqu'un qui la connaissait et par cette étudiante aussi qui a travaillé sur les Ouïghours. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite sur Campus Grenoble 90.8 et sur le player de Radio Campus France.
Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.